Mondial Sport sur RFI. Olivier Prom.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport. 30 minutes de résultats, d'analyse, de coups de projecteur et pourquoi pas. Avec Antoine Grenier, nous allons vous parler football sur le continent avec le premier tour préliminaire des Coupes d'Afrique des clubs en Europe avec les reprises des championnats de France et d'Angleterre. Nous parlerons aussi basket avec le coup d'envoi de l'afro-basket féminin à Dakar. Volley avec les tournois de qualification olympique ce week-end qui concernent la Tunisie, le Cameroun, l'Égypte et la France. Et puis vélo en RDC et à travers toute l'Europe avec une course de déglingo remportée par une femme. Allez, c'est parti. Le football donc sur le continent pour commencer, les Coupes d'Afrique des clubs sont de retour. Antoine Grenier aussi, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
On va commencer par la reine des compétitions de clubs, la Ligue des Champions. C'est une compète qui ne connaît son vainqueur d'ailleurs du dernier exercice que depuis quelques jours, ça s'appelle la CAF. L'Espérance de Tunis sacrée donc sur tapis vert après décision de la commission de discipline de la dite CAF. Et donc Antoine, déjà des candidats là ces dernières heures à la succession de l'Espérance de Tunis. Tour préliminaire allez, on l'a dit, et quelques nouveaux qui pointent le bout de leur nez.
Et c'est le cas des Burkinabés du Raïmo FC, auteur du doublé coupe championnat la saison dernière, et qui doivent passer par l'étape Nigeria s'ils veulent atteindre la phase de groupe. Raïmo qui recevait des habitués, les Nigérians d'Enyimba et les Burkinabés se sont imposés 1-0. But d'Issouf Zonon à la 33e. Les attaquants du Burkina ont manqué de réussite, mais Borema Zongo, l'entraîneur du Raïmo FC, était surtout satisfait de ne pas avoir encaissé de but.
Je veux féliciter ce jeune garçon. Nous avons gagné 1-0 contre Enyimba. C'était dit que tout d'abord, ne pas encaisser. Et pouvoir marquer au moins 2 à 3 buts. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons gagné, mais nous regrettons beaucoup les occasions manquées devant les buts. Certes, c'est le football. Et maintenant, ces jeunes-là, il faut les préparer. Le match retour, nous savons que ça serait un match très, très, très difficile. L'équipe de Enyimba, il faut dire qu'ils ont des joueurs très expérimentés. Par moment, elle joue bien, mais elle est un peu lourde derrière. On est déjà informé. Nous allons faire un déplacement qui est difficile, mais pas impossible. Le problème, c'est quoi? Il faut aller chercher à marquer. Il faut marquer au Nigeria et maintenant voir la suite.
Borema Zongo, l'entraîneur du Raïmo FC, au micro de Gabriel Barrois. À Bamako, le stade malien accueillait le Oroya de Conakry, quart de finaliste de la dernière édition. Un partout entre les deux formations. Sadio Kanouté, le milieu de terrain Bamako, était plutôt satisfait à la sortie du terrain parce que cette jeune équipe malienne a tenu la dragée haute à une belle équipe, assure-t-il.
C'est pas un résultat si mauvais que ça, vu le parcours des Oroya. Les stades maliens, chaque année, on a affaire à construire une équipe. Nous sommes jeunes, mais prometteurs. On a su convaincre les publics maliens de sortir massivement avec nos talents. Et puis, ce qu'on a démontré, on sait que Orient, c'est une grosse écurie en Afrique de l'Ouest, si je peux me permettre, en Afrique même. Voilà, tenir Orient 1-1 à domicile. Je ne peux pas dire que c'est un résultat positif, mais ce n'est pas négatif aussi. Parce que si tu regardes Orient, ils ont plus de complicité entre eux parce que ce sont des joueurs qui ont un peu vécu ensemble. Comme je vous ai dit, les stades malais, chaque année, ils ont affaire à construire une équipe nouvelle. Le match recours est ouvert. 1-1, c'est un score piège. C'est ouvert. Voilà, ils sont venus marquer ici. Comme nous, on peut aller gagner là-bas. Pas aller chercher le match nul, aller gagner là-bas. Nous, on est confiants.
Sadio Kanouté, milieu de terrain du stade malien, au micro de Mamadou Kaloga.
Toujours dans ce tour préliminaire de Ligue des Champions, Antoine, les Orlando Pirates démarrent timidement.
Et avec une défaite pour les Sud-Africains finalistes en 2013, on le rappelle. Et de retour dans cette Ligue des Champions l'an passé, les Pirates battus 1-0 sur le terrain des Zambiens de Green Eagles. En revanche, le Primero de Agosto, lui, n'a pas tremblé à Zanzibar face à l'équipe d'Unguja. KMKM, victoire des Angolais 2-0. De quoi leur permettre d'aborder le match retour tranquillement. Enfin, les Marocains du Raja Casablanca étaient en Gambie pour affronter Brikama United. Les finalistes 2018 de la Coupe de la Confédération ne s'attendaient sûrement pas à autant de résistance. Score final, 3 partout entre les deux équipes.
Demain dimanche, suite de ce tour préliminaire aller et de vieilles connaissances qui se retrouvent à Cotonou au stade René Pleven.
Les Béninois des Buffles du Borgou reçoivent les Togolais de l'association sportive des conducteurs de Cara. Un peu la fête des voisins entre le champion du Bénin et le champion du Togo.
Pareil.
Deux équipes, vous le disiez, qui se connaissent bien parce qu'elles disputer un match amical l'une contre l'autre le jour du tirage au sort de cette Ligue des Champions et donc le jour où elles ont appris qu'elles s'affrontaient dans la compétition. Amidou Haruna, l'entraîneur des Buffles du Borgou, visera rien moins qu'un exploit.
Et pendant le match, nous avions su que nous jouions contre cette même équipe. Nous les connaissons, en tout cas, on a tiré les enseignements de ce match amical-là contre la CK à Lomé. C'est vrai que la Champions League est une autre compétition, mais j'ai demandé à nos joueurs de rester en tout cas concentrés, ok, devant cette nouvelle tâche, parce que c'est inédit, le Bénin n'a pas placé une équipe dans ces phases de poule-là. Donc vraiment, nous sommes conscients de la tâche. Et nous nous battrons pour nous qualifier. La motivation, elle y est, puisque c'est un facteur effectivement de la performance. Les joueurs tiennent régulièrement des réunions où, en tout cas, de promesses fermes ont été faites et nous pensons que la motivation, elle y est.
Voilà, et en face, son homologue Urokura Tchagara, l'entraîneur de la SCK, est un peu déçu de la qualité du terrain du stade René Pleven, mais il veut voir ses joueurs faire la différence dès ce match aller.
Il y a une bonne ambiance et on attaque le match. On vient de découvrir le terrain. Bon, c'est l'Afrique. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Et puisque la qualité par rapport sur lequel nous on s'entraîne est mieux que ça. Mais nous allons faire avec. On a joué sur des terrains pires que ça, ce qui est sûr. On est venu pour faire un résultat, on va essayer de le faire. Ça suppose que nous n'allons pas partir avec zéro point, c'est avec une victoire ou bien un match nul. Voilà l'objectif. Tout compte fait, on doit prendre la qualification à Cotonou pour que le match retour soit encore plus facile pour nous. On a eu à jouer avec les Buffles de Borgou en match amical et c'est le même jour, le tirage a été fait. Voilà, ça s'avère difficile pour demain, mais on va se donner les moyens pour venir à bout de cette équipe.
Urokura Tchagara, l'entraîneur de la SCK, au micro de Félix Soundé, Pépé-Ripé.
Des grands noms sur les terrains demain d'ailleurs, et notamment l'équipe la plus titrée de cette Ligue des Champions, l'Al Ahly du Caire.
8 victoires en tout, même si la dernière remonte à 2013. Les Kérottes démarrent leur campagne 2019-2020 par un déplacement sur le terrain des Sud-Soudanais d'Atlabara. Le Zamalek du Caire, lui, sera en voyage pour affronter un club somalien d'Ekeda. Parmi les autres rencontres de ce tour préliminaire, l'Étoile du Sahel, de son côté, affrontera un grand nom des années 70, le Afia de Conakry. Les Sénégalais de Génération Foot sont au Liberia pour affronter le LPRC Euler. Le champion de Côte d'Ivoire, Société Omnisports des Armées, accueillera les Mauritaniens du FC Nouadhibou. Les Mamelodi Sundowns seront au Congo pour défier l'Asoto Doyo. Et puis l'ASV Club de Kinshasa est au Cameroun sans son entraîneur Florent Ibengue. Officiellement, le désormais ex-sélectionneur des Léopards est en vacances d'après Cannes. Les Dauphins qui affronteront l'UMS de Loum. Et puis notons le déplacement des Tchadiens d'Elexport sur la pelouse des Gabonais du Cercle Mberi Sportif.
Et puis l'autre Coupe d'Afrique aussi dispute, Antoine, son tour préliminaire, la Coupe de la Confédération, d'ailleurs un match en cours ou sur le point de se finir.
Oui, celui qui oppose les Algériens de Belouizdad à Coton Tchad, des Tchadiens de retour en Coupe d'Afrique après 2 ans de suspension du pays. On est dans le temps additionnel, 2-0 en faveur de Belouizdad. A priori, c'est plié pour ce match aller. Du côté du Gabon, signalons que l'AS Pélican, l'équipe de Lambaréné, a elle été tenue en échec un partout par les Congolais de l'AS Maniema.
Ah, Lambaréné, c'est si joli. Quelques gros scores à signaler parmi les rencontres du soir.
À Nouakchott, l'école supérieure d'administration et d'économie du Bénin vient d'atomiser l'AS SNIM, la Société Nationale Industrielle et Minière de la Mauritanie, par 5-0. Pas de suspense a priori pour le match retour. Entrée en matière réussie aussi pour les Égyptiens de Pyramids FC. Pour leur premier match en Coupe de la Confédération, les joueurs de Sébastien de Sabre ont largement dominé l'étoile du Congo, 4-1. Et puis les Ougandais de Proline se sont imposés 3-0 sur les Malawites de Master Security. Parmi les autres matchs, à noter la victoire des Guinéens du Santoba de Conakry sur la pelouse des Nigériens de Niger's Tornadoes, 2-1.
Toujours un bel exercice de diction, hein, ces Coupes d'Afrique des clubs, mon cher Antoine. Demain, ça continue avec 9 rencontres.
Et parmi lesquelles, le Daring Club Motema Pembe qui accueille les Camerounais du Stade Renard. En Tunisie, Ben Gardan recevra les Sud-Soudanais d'Amarat United. Puis du côté de Niamey, l'US Gendarmerie Nationale recevra les Libyens de l'Alitiad. Avec l'envie du débutant pour des Nigériens qui découvrent cette Coupe de la Confédération, Zakari Yaou Ibrahim, l'entraîneur de l'US Gendarmerie, paraît presque impatient.
C'est une équipe très jeune. D'abord, nous partons en inexpérimenté. Peut-être que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Nous allons, sous ce match, aller et l'aborder avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'envie. Nous donnons tous les moyens de faire un très très bon match ici. Il va nous faciliter le match retour en vue du second tour. Le moral, il est haut et les joueurs ont envie. C'est surtout ça qui est important. et c'est ce qui va nous booster, n'est-ce pas, et aller vraiment chercher cette qualification dès le premier match à domicile. Nous sommes en train de faire ce travail, n'est-ce pas, nous sommes en train d'agir sur leur mental et en positif du début jusqu'à la fin du match pour vraiment remporter et faire une belle prestation. Et l'objectif global de l'Union sportive de la gendarmerie, c'est d'oser, il faut oser, parce que nous ne jouons pas pour participer, non, on participe pour gagner.
Zakari Yaou Ibrahim, l'entraîneur de l'Union sportive gendarmerie, au micro d'Ousmane Keïta. Et puis enfin, toujours dans ce tour de préliminaire de Coupe de la Confédération, Alomé, les Togolais de Maranata, vice-champions du Togo, accueilleront les Libériens du LASCRFC.
Merci Antoine Grenier, on se retrouve dans quelques minutes. On se retrouve dans quelques minutes avec Antoine Grenier, parce que nous on reste là, on continue à parler foot en Europe à présent. Il reprend tout doucement ce week-end, les stades anglais notamment ont rouvert, nous y reviendrons en longueur dans notre émission de demain dimanche, soyez au rendez-vous, ce sera avec Bruno Constant. Nous reviendrons notamment sur la première grosse affiche de la saison, Manchester United, Chelsea, ainsi que sur Newcastle, Arsenal. Un championnat de première ligue dont le tenant et son dauphin de la saison dernière sont encore les archi-favoris, Manchester City et Liverpool, et les deux Cadors ont bien tenu leur rang, les Reds, hier vendredi à domicile, 4-1 aux dépens du promu Norwich. Mo Salah a marqué notamment. Les Citizens cet après-midi sur la pelouse de West Ham à Londres, 5-0 avec un triplé de Raheem Sterling. Ça a été plus compliqué pendant 75 minutes pour celui qui est considéré comme l'outsider numéro 1, le vice-champion d'Europe, Tottenham, mené 1-0 par un autre promu, Aston Villa. Les Spurs l'ont emporté 3-1 grâce à 3 buts inscrits dans le dernier quart d'heure, un doublé d'Harry Kane précédé de la première réalisation en Angleterre de l'ancien lyonnais Tanguy Ndombele. Les autres résultats, Brighton a battu Watford à Watford 3-0, Crystal Palace Everton, bon, on pouvait s'en passer, 0-0, Burnley 3-0 face à Southampton, Bournemouth 1, Sheffield United 1. L'autre championnat qui reprend ce week-end, eh bien c'est la Ligue 1, bien sûr. On est toujours tellement impatient de savoir qui sera deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Bon, alors hier, cette saison avait commencé par un choc de prétendants au podium, justement, qui a tourné court, hein, tant Lyon, très vite à 11 contre 10, a surclassé un Monaco dans la lignée de sa dernière saison, c'est-à-dire calamiteuse. 3-0 pour l'OL sur le Rocher, et cet après-midi, on attendait avec une certaine impatience de voir la tête du Marseille d'André Villas-Boas face à Reims. Et cette tête, Thomas, eh bien, elle est déconfite.
Oui, première journée, premier sifflet, première bronca, même au Vélodrome. Marseille battu par Reims 2-0 et c'est tout sauf illogique. D'un côté, on avait une équipe, un collectif et des talents qui s'expriment comme Dingomé ou ce Boulaïdia, buteur puis passeur pour Souk, un véritable poison pour les défenseurs olympiens. Côté marseillais, vous l'avez dit, on voulait voir cet OM à la sauce Villas-Boas et on a vu, ou plutôt on n'a pas vu grand chose de nouveau. Pour l'instant, c'est la copie conforme de l'an dernier sur le terrain et même dans le discours. Écoutez par exemple le gardien de but et capitaine Steve Mandanda, il est au micro de Canal+.
C'est une grosse désillusion par rapport à ce qu'on espérait, par rapport à ce qu'on a montré aussi les derniers matchs. Sincèrement, trouver des excuses, c'est pas la meilleure solution. Ils ont été plus agressifs que nous, plus solides que nous, plus efficaces que nous. Et ça montre qu'on a encore énormément de chemin à faire pour pouvoir être performant dans ce championnat. On est déçus par rapport, encore une fois, à ce qu'on a fait, par rapport à nos supporters qui étaient nombreux et qui avaient énormément d'espoir. Après, il faut continuer, il reste encore beaucoup de matchs. Garder du positif et puis enchaîner. Enchaîner parce qu'on n'a pas le choix.
Voilà, entre les lignes et dans le timbre de voix, on sent déjà un peu de résignation chez Steve Mandanda. À la décharge des Marseillais, il faut peut-être un peu de temps pour que la greffe Villas-Boas opère totalement.
Mais bien sûr. Une tendance également dans les autres matchs du soir, la continuité paye.
Oui, les équipes rodées l'an dernier démarrent du bon pied. Exemple avec Rennes qui s'est imposé 1-0 à Montpellier, but de l'international malgache Jérémy Morel. Andy Delors, le champion d'Afrique, a lui manqué le pénalty de l'égalisation. Bon départ aussi pour Saint-Etienne. Les Stéphanois, quatrième du dernier exercice, l'emportent 2-1 à Dijon. Jean-Eudes Aoulou, la recrue ivoirienne, a marqué pour sa première en vert.
2-1 encore pour Nice contre Amiens.
Le capitaine Dante a libéré ses troupes d'un coup de tête rageur dans les arrêts de jeu quelques minutes après l'égalisation amiénoise du Congolais Shadrack Akolo. Enfin, Angers a battu Bordeaux au 3-1. Brest et Toulouse ont fait match nul. un partout.
À la suite, on l'a dit, demain avec trois rencontres.
D'abord à 13h, temps universel, Lille-Nantes pour digérer. Suivra Strasbourg-Metz pour l'apéritif. Avant la rentrée du patron, le PSG accueillera Nîmes en clôture.
Et ce sera sans Neymar.
Confirmation, oui, du directeur sportif parisien Leonardo. Leonardo qui a pris la parole, micro fermé, juste avant la conférence de presse de Thomas Tuchel pour donner donc cette information. Et puis une précision claire, nette, précise. Des discussions existent en vue d'un transfert. Elles progressent. Et tant que la situation ne sera pas réglée dans un sens ou dans l'autre, Neymar ne jouera pas. J'imagine que vous rêvez de savoir l'identité, de connaître l'identité de ce club mystère avec
absolument pas
lequel le PSG négocie. Et ben c'est dommage de toute façon puisqu'il n'y a pas de nom révélé par...
Mais tout le monde sait que c'est le Real.
Voilà, alors le Real ou le Barça, en tout cas, vous savez comment ça se passe dans la presse espagnole. La presse catalane va vous dire que le Barça est plus proche de conclure et la presse madrilène va vous dire l'inverse. Mais a priori, le Real, c'est vrai, serait plus proche. La bagarre, en tout cas, entre les deux grands d'Espagne, c'est rigolo, se poursuit en coulisses.
Et la communication au PSG, c'est quand même mieux quand il y a Leonardo et pas l'autre. Pas de Neymar, en revanche, Alphonse Areola sera bien là, lui.
Oui, Gianluigi Buffon et Kevin Trapp partis, sauf recrutement de dernière minute dans les cages, le champion du monde va pouvoir s'installer durablement entre les piquets parisiens. L'occasion est belle. À lui de jouer, nous dit en substance son entraîneur Thomas Tuchel. On peut jouer aussi, nous.
Ouais, il doit mériter. Maintenant, il a une grande occasion de montrer Alphonse qu'il est capable d'améliorer, de prendre des responsabilités. C'est absolument nécessaire et très important pour nous. Un club comme PSG est toujours ouvert pour trouver des solutions dans le mercato, mais nous ne sommes pas seuls et j'ai confiance à Alphonse et il doit montrer maintenant.
Voilà, le message est passé à Areola de bien le comprendre, surtout qu'il reste 3 semaines de mercato et pour finir par un cliché, Olivier, dans le foot, tout va très vite.
Merci Thomas de Saint-Léger, je vais méditer là-dessus la suite de l'émission. On vous retrouve très vite. Foot encore, un dernier résultat, la Liga ne débute que dans une semaine, mais l'Atlético semble déjà bien prêt. Un doublé de la recrue portugaise João Félix a permis aux Colchoneros de battre la Juventus de Turin 2-1 en match de préparation lors de l'International Champions Cup. Ça s'est bien maîtrisé comme accent, non? C'était ce samedi à Stockholm en tout cas. Le Portugais a coûté 126 millions, alors il peut bien marquer 2 buts en match de préparation. Voilà, c'est fait, c'est fini pour le foot. L'afro-basket féminin, c'est parti. Depuis ce matin, les meilleures nations africaines s'affrontent à Dakar, à la Dakar Arena, la salle flambant neuve, construite en périphérie de la capitale sénégalaise. Le pays hôte, d'ailleurs, en lice ce soir, hein, Antoine.
Oui, les Sénégalaises à la recherche d'un nouveau titre africain, 4 ans après le sacre au Cameroun, et 2 ans après cette déception en finale face au Nigeria, les Lions opposés à la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas fait de détails en s'imposant 77-36. Dans le groupe C, le Mali a lui attendu le dernier carton, mais il a fini par s'imposer sur l'Angola 71-63. Alexia Dizeko, la toute jeune arrière angolaise, a eu beau inscrire 17 points. Ce sont les Maliennes qui ont fini par imposer leur collectif avec 4 joueuses à 10 points ou plus. Victoire acquise dans la douleur, analysait Sylvain Lautier, le sélectionneur malien.
Et les premières fois dans un tournoi sont jamais évidents parce qu'on a un manque de repères, un manque de repères même de salle. Hein. Et on a vu beaucoup de maladresses sur la première mi-temps. Et effectivement, il fallait la prendre parce qu'on est une équipe jeune et d'avoir des matchs, là c'est des matchs couperés, mais si on perdait le premier, le deuxième aurait été encore plus couperé avec une équipe jeune. Donc une équipe jeune, ça permet de s'installer dans les seniors parce qu'on a au moins 5-6 nouvelles joueuses. Donc c'est bien. Donc Khadija Maïga, on a pris Khadija qui a fait une bonne deuxième mi-temps et puis qui est là, c'est locale puisqu'elle joue au Sénégal.
Sylvain Lautier, le sélectionneur malien, pardon, au micro de Babacar Fall. Le groupe D a lui vu le succès du Mozambique 55-39 sur le Kenya.
Et en tout début de journée, les championnes d'Afrique en titre ont voulu montrer qu'elles n'étaient pas là pour plaisanter.
Les Nigérianes opposées à la Tunisie, des Tunisiennes qui ne se faisaient pas beaucoup d'illusions de toute manière, incapables qu'elles sont de passer la phase de poule depuis leur finale en l'an 2000. Et elles sont parties pour ne pas y arriver. Encore une fois, les Tunisiennes éparpillées façon puzzle par les Nigérianes 75-26. Hassan Ben Salma, le sélectionneur adjoint de la Tunisie, n'était pourtant pas trop déçu.
Premier match avec le tenant de titre, même la morphologie, c'est énorme. Pour un premier match, je peux dire que ça va. Mais à propos de deuxième match, ça va être différent. J'ai confiance en mes joueuses et voilà, on va petit à petit, on va décoller. On a 24 heures à rectifier nos erreurs et c'est un autre match pour nous à préparer. Le match du Cameroun, c'est 50-50. On est entré le match du Nigeria, c'est 80-10% à 10%. Mais à propos du match du Cameroun, ça va être 50%-50% et j'ai confiance à mes joueuses.
Hassan Ben Salma, le sélectionneur adjoint de la Tunisie.
Du moment qu'il a confiance. Demain, ça continue, hein, toujours à la Dakar Arena avec l'entrée en lice du Cameroun.
Dans leur groupe B, les Lyonnes indomptables ont bien l'intention de retrouver la finale dont elles ont goûté le parfum il y a 4 ans. Et leur début face à cette faible équipe de Tunisie pourrait aider les joueuses d'Ahmed Bombonjoya à se mettre en confiance. Les autres affiches groupe A, Égypte, Côte d'Ivoire, groupe C, Angola, RDC et poule D, Kenya, Cap-Vert.
On parle volet, le tournoi de qualification olympique, ça concerne le Cameroun, mais aussi les Lions. Non, je me suis dit, allez, c'est bien ça, c'est...
Entre autres.
Tout d'un coup, je cherche une feuille que je ne trouve pas, mais les Lions ne sont pas si indomptables que ça à Bari. Voilà pour ce tournoi de qualification olympique de volet.
Oui, deuxième défaite en autant de rencontres pour les coéquipiers de Nathan Bounembaina. Après le revers contre l'Italie, cette fois, c'est contre la Serbie, quatrième du dernier championnat du monde. Défaite 3-7-0. Le libéro de cette équipe du Cameroun, Alain Fossi, Camto, même déçu, voulait tout de même positiver. Pour lui, la relève camerounaise a montré de quoi elle était capable dans l'avenir.
Là, on est dans l'optique du futur, de la préparation. Donc, si on part dans cet état d'esprit-là, forcément, oui. Il ne faut pas qu'on lâche tous les matchs. On est là pour apprendre. L'équipe jeune qui est là, c'est pour apprendre. On n'a pas à se mettre la pression, on n'a rien à prouver. Au contraire, on a beaucoup plus à gagner, à aller chercher des équipes comme ça, à jouer notre niveau. Il faut qu'on se fasse plaisir. Donc, non, il n'y a pas de pression. On ne va pas non plus dire qu'on va lâcher. Non, on ne va pas lâcher. Il faut rester positif. On a des joueurs cadres aussi, des réceptionneurs, notamment Unibaina et puis Sali, qui sont blessés. C'est des bonnes augures pour qu'ils apprennent. On va faire avec, mais je pense que ça va aller dans les prochaines compétitions. Je ne doute pas de ça.
Alain Fossi, Camto, le libéro camerounais au micro d'Étienne Arthur Defoe. Il reste un match au Cameroun demain contre l'Australie. Les Camerounais qui ont perdu tout espoir d'accrocher la première place du groupe C, directement qualificatif pour les Jeux de Tokyo, mais qui pourront encore se qualifier via les Jeux africains de Rabat.
Les autres nations africaines n'ont pas connu beaucoup plus de réussite.
Les champions d'Afrique tunisiens sont inclinés 3-0 face à la Slovénie, tout comme l'Égypte qui a plié face au Brésil, défaite en 3 manches. Ça fait 2 revers dans ce groupe A pour les 4e de la dernière Coupe d'Afrique. Il faudra sauver l'honneur face à Porto Rico.
Et les Tunisiens joueront ce dimanche face aux Français qui, eux, avaient gagné le premier match face aux Slovènes. Ils ont perdu face aux champions du monde. Aujourd'hui, ça veut dire que Tunisiens comme Français devront patienter encore pour espérer voir les Jeux Olympiques. Il y aura un tournoi pour les Français en janvier, mais il y a quand même un dernier match demain. Allez, direction la RDC pour parler cyclisme. Et c'est demain que le Tour National va s'achever, Antoine.
Et après une journée de repos accordée aux coureurs aujourd'hui, 6e et dernière étape ce dimanche, les organisateurs ont décalé cette dernière phase d'une journée en raison de la circulation dans Kinshasa, moins importante selon eux le dimanche que le samedi. Bref, au programme des coureurs de ce tour, 100 km au départ de Nsélé, arrivé dans Kinshasa avec 3 tours façon critérium dans la ville, avant la ligne d'arrivée finale de ce 7e tour de la RDC. Olivier.
Ce sera demain dimanche, vous le promettez. Et là, cette fois, on aura l'occasion de faire un petit bilan. On parlera, bien sûr, également, on reviendra en longueur sur les tournois qualificatifs olympiques de volley. Allez, on va terminer cette émission toujours par du cyclisme. Cyclisme et aventure avec un A majuscule, s'il vous plaît. C'est une grande première, en effet, qui s'est achevée cette semaine. L'Allemande Fiona Kolbinger, 24 ans, a remporté la 7e édition de la Transcontinentale. C'était mardi, à Brest, en Bretagne, du jamais vu pour une femme, sur cette course mixte d'ultra-endurance. 4000 km en totale autonomie et sans assistance, depuis les rives de la mer Noire en Bulgarie jusqu'aux côtes atlantiques bretonnes en France, en passant notamment par de célèbres cols alpins comme le Télégraphe ou le Galibier, des habitués du Tour de France, sans oublier l'Alpe d'Huez, en ne dormant que 5 heures par jour et en évitant si possible les soucis mécaniques. Fiona Kolbinger s'est donc imposée dans cette course amateur en 10 jours, 2 heures et et 48 minutes et devant plus de 200 coureurs masculins. Comment diable a-t-elle fait pour damer le pion à ces messieurs? Eh ben, apparemment, c'était pas la question à poser la directrice de course, la Britannique Anna Aslock. Pour elle, le succès de Fiona n'a rien d'une surprise. Mais Martin Guez s'est quand même risqué à lui poser cette question. Il est comme ça, monsieur Guez, intrépide. On écoute Anna Aslock le remettre à sa place.
Comment est-ce qu'elle a fait pour battre les hommes? Eh bien, en étant meilleure. Ce n'est pas surprenant de voir une femme devant, surtout dans ces disciplines d'ultra-endurance. Ce n'est pas inhabituel. Mais c'est vrai que si on regarde le nombre de femmes qui prenaient part à la course, il n'y en avait que 40 pour plus de 200 hommes. Donc, mathématiquement, c'est vrai qu'il y avait plus de chances de voir un homme remporter la transcontinentale.
Oui, c'était un petit peu pour ça que je vous posais la question. Comment elle a gagné finalement? Quelles sont ses qualités à Fiona?
Bon, cette course, ce n'est pas qu'un effort physique, c'est plus que simplement de l'endurance. Le principal, c'est votre force mentale, votre volonté, puis votre capacité à gérer les épreuves sur la route. Je pense que ce sont des qualités que possède Fiona. Elle n'est pas dans le milieu depuis très longtemps, mais elle a parfaitement fait face à ses soucis mécaniques. Elle a su réparer son propre vélo quand elle a eu des problèmes, le tout en dormant très peu et en gérant bien son rythme. Donc, si l'on prend tout ça en compte, je ne suis vraiment pas surprise qu'elle ait gagné.
Et est-ce que vous la connaissiez, vous, Fiona, avant cette course? Parce qu'il me semble que c'était la première fois qu'elle participait à la transcontinentale.
Oui, on ne la connaissait pas du tout. Elle vient de Dresde et les membres de son club de vélo savaient que c'était un talent. Mais elle n'avait dit à personne qu'elle allait prendre part à la transcontinentale, donc ils n'étaient même pas au courant, jusqu'au moment où ils ont vu qu'elle était en tête de la course.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les bases de votre course? Il me semble que les coureurs sont en complète autonomie, qu'ils prennent un peu la route qu'ils veulent, c'est ça?
Ce que l'on fait, c'est qu'on fournit un point de départ et d'arrivée, ainsi que quatre points de contrôle, comme l'Alpe d'Huez cette année. Le but, c'est que les coureurs passent à chacun de ces points de contrôle en un temps imparti. Et ils doivent aussi s'orienter et prévoir les routes à emprunter entre chaque point de passage.
D'accord, donc Fiona, elle est arrivée mardi matin après 4000 km. Elle a très peu dormi durant cette course. Ce que vous lui avez parlé, on imagine qu'elle doit être très très fatiguée.
Pour être honnête, elle a très bien géré son sommeil. Elle avait une routine très stricte. Elle roulait pendant 19 heures par jour et elle dormait durant environ 5 heures. C'est ce que l'on a remarqué chez les vainqueurs de notre course. Évidemment, ils ne dorment pas beaucoup, mais surtout, ils font attention à avoir les mêmes habitudes de sommeil. Comme ça, ils gardent le rythme pour les 10 autres jours qu'ils ont à tenir sur les routes. Fiona, elle allait se coucher tous les soirs à minuit et puis son gros point fort, c'est qu'elle est très rapide en montagne. C'est une excellente grimpeuse. C'est là-dessus qu'elle a fait la différence sur beaucoup d'hommes. Ce qui rend cette course passionnante, c'est que les coureurs doivent vraiment se connaître eux-mêmes. Ils doivent connaître leurs propres ressources et courir selon leur propre style. Voilà pourquoi c'est une épreuve intéressante.
C'était la 7e édition de votre course et visiblement, il y a de plus en plus de femmes qui prennent part.
Oui, le nombre de participantes augmente chaque année. Lors de la première édition en 2013, il n'y en avait qu'une. L'an dernier, il y en avait 29 et cette fois-ci 40, ce qui est pour l'instant un record pour nous.
Alors peut-être que ma comparaison ne va pas vous sembler juste, mais le Tour de France vient de se terminer. Est-ce que vous pensez, vous, que votre course est encore plus dure? On a vu par exemple que Fiona avait dû grimper des cols très difficiles comme le Télégraphe, le Galibier ou encore l'Alpe d'Huez.
La transcontinentale, c'est une course très dure, mais je pense que c'est très difficile de comparer. Nos participants ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas de nutritionniste ou de physiothérapeute, ils n'ont pas de masseur, ce n'est pas une course à étapes, ils n'ont pas de temps de repos et ils dorment souvent à la Belle Étoile. C'est une course très exigeante, mais très différente du Tour de France, donc ce n'est pas utile de les comparer.
Et ben voilà, c'est dit. La très directe, Anna Aslock, direct de la transcontinentale, interrogée par Martin Guez. En ce qui nous concerne, eh bien, on se retrouve demain, dimanche, même heure, même endroit, et surtout même fréquence, toujours avec Antoine Grenier et même l'échevelé Nicolas Benita aux manettes.